C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Chers auditeurs, vous venez de nous déranger. Je suis en pleine conversation avec Louis-José Houde.
Ça, c'est toute une façon d'amorcer.
Ben oui.
Il y a juste vous qui pouvez faire ça. Écoutez les auditeurs, vous nous dérangez un peu.
Est-ce qu'on permet d'autres commerciaux? Je voudrais juste finir la conversation. Non, sérieusement, Louis-José Houde est avec nous. Oui. Il a annoncé de nouvelles dates de spectacle à Montréal, Québec. D'abord, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Vous allez bien?
Très bien, merci vous-même.
Oui, alors c'est des dates qui s'ajoutent pour l'automne.
Oui, monsieur.
Vous allez où? Quelle date? Faire quoi?
Je serai, on peut dire en résidence,
oui,
au Théâtre du Jésus, sur la rue de Bleury,
oui,
tout l'automne. J'y suis encore, là. Il y a des pépites là, de salles qui restent, des billets pour le mois de juin. Et à la mi-juin, je prends une petite pause. Et puis en septembre, de septembre à décembre, j'y serai là, pour une vingtaine de soirs avec un nouveau spectacle qui s'appelle « Tu n'es pas spécial ». C'est ce que j'y ferai. C'est un spectacle comique, ça, M. Arcand. Et... ça revole. C'est un spectacle dynamique qui a un peu de colère au milieu, où je m'en prends à toutes sortes de situations. Et je raconte aussi ma vie, ma nouvelle vie de papa. Voilà. Donc, c'est un beau spectacle qui se prend bien, qui se fait très bien, que j'allonge. Je suis supposé faire juste 6 mois avec ça. Je suis supposé finir en juin, puis j'ai décidé d'allonger parce qu'il me satisfait.
OK. Deux questions de base très simples. C'est une plus petite salle que d'habitude.
Oui.
C'est un choix parce que c'est le genre de spectacle qui fait qu'on est dans une salle moins grande que d'aller, je sais pas moi, dans un amphithéâtre plus imposant.
À Québec, je fais la salle Albert Rousseau, qui est la salle standard là, qu'on fait en okay. tournée, qui est un 1300 places à peu près. Et puis, là, je vais faire le 10-30, la Brossard, là, qui est un 1000, pas loin, Gatineau, bon, Sherbrooke, Chicoutimi, Moncton. C'est des salles là, de plus ou moins 1000 sièges. Puis à Montréal, le Jésus, je trouve quelque chose de très, 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 très efficace pour l'humour. Une jauge d'à peu près 425, qui a quelque chose de... 425, c'est assez pour créer une espèce de vague, une espèce d'engouement, mais c'est en même temps très intime. Chaque spectateur est bien placé, même s'il est en dernière rangée. Et je trouve que, à la fin de la journée, les gens aiment ça nous voir dans plus intime. Il n'y a pas des salles de 400 personnes dans toutes les villes du Québec, mais à Montréal, on est doté là, d'un beau réseau de salles. Puis pour cette tournée-ci, je trouvais ça intéressant d'y aller de façon plus acoustique et intime. Ouais.
Comment va l'enfant?
Ah, il est merveilleux. Il est, là, on est dans les mots, on est dans la marche, on est dans le lancer du stock. C'est des gros matins, mais il est fantastique. C'est la plus belle chose au monde.
Il était désiré, attendu. Mm-hmm. Vous avez même parlé à un moment donné de moments déprimants, de dire mm-hmm. « j'avance en âge puis j'ai pas encore d'enfant mm-hmm. ». Aviez-vous fait le deuil ou si vous étiez toujours dans l'espoir?
Ah mon Dieu, j'étais tout près du deuil. J'étais tout près, je me préparais à ce que ça n'arrive pas. Et puis, j'ai fait une rencontre merveilleuse il y a quelques années et c'est arrivé. Mais j'étais prêt, j'ai commencé à me préparer mentalement. Physiquement, j'ai commencé à faire attention il y a quelques années en me disant, oups, j'en aurai pas à 35 ans. Dans le sens que ça, si j'en ai, ça arrive retard. Fait que là, je me suis mis à faire de la course et tout ça. Pour me dire, ça se peut que je passe ma cinquantaine dans des carrés de sable. Et donc, je me suis préparé physiquement pour ça. Mais malgré tout, je commençais effectivement à me dire, je vais vivre sans connaître les joies de la paternité. Et ce sera correct aussi, tu sais.
Mais pourquoi c'était si important que ça?
On dirait que, ben moi, j'ai deux sœurs, donc trois enfants à la maison. Puis mes parents ont eu l'air d'aimer ça. Élever des enfants, je sais pas, ça me semblait agréable. Moi, je suis content d'avoir eu des sœurs. Et puis, j'ai un certain sens de la famille. Puis, je m'étais jamais dit, ah, je n'en veux pas. Je me disais, pour moi,
on
n'est
pas d'enfants au monde avec la planète sur laquelle on se promène actuellement. Là.
Pardon?
J'ai dit, on met pas d'enfants au monde. Il y en a des gens qui disent,
ouais.
avec l'environnement, ouais. les guerres et tout ça, il faut pas faire d'enfants.
Oui, c'est une façon de voir ça.
Mais c'est pas la vôtre.
C'était pas la mienne. Et puis, j'avais cet appel-là, tout simplement, là, de connaître, de donner la vie et puis de partager la vie d'un jeune enfant. Je sais pas, c'était tout à fait instinctif, naturel et inné. Donc, ça s'est fait un peu tard, mais je suis bien heureux qu'il soit là.
Il y a des gens qui m'ont parlé de votre spectacle. Puis là, c'est peut-être une mauvaise interprétation, vous me le direz, mais c'est comme si vous dites, il y a un certain nombre d'affaires que j'ai envie de vous dire qui méritent, qui me fatiguent. L'attitude, l'emploi de certains mots, mm-hmm. de certains comportements. Puis je vais donner un exemple, là, à la télévision, beaucoup mettre l'emphase sur l'émotion,
ouais,
sur les pleurs, sur la vie difficile. Ça, ça a l'air à vous énerver.
Ouais, mais il y a tout un segment sur ça, sur l'émotion, parce qu'on est une société émotive. Et dans le segment, je parle pas... je dis que pour moi, deux acteurs là, qui jouent une scène triste, moi, ça me va, là, personnellement. J'aime quand voir un drame à la télé. C'est pas ça, c'est l'émotion dans qu'on force absolument dans des publicités de shampoing ou des concours de télé-réalité, tout ça, où tout devient très émotif et très... La musique, l'usage de musique dramatique qu'on fait là, sous une intrigue de shortcake aux fraises, je trouve ça beaucoup. Je trouve qu'on nuance plus beaucoup. Et puis après ça, l'usage de mots, l'usage de certains mots, là, pas seulement à télévision, mais quand on achète une voiture ou quand on... La publicité aussi, surtout, je trouve qu'on respecte plus la charge de certains mots, puis on est toujours à cran, toujours à fond avec dans notre phrasé à certains moments. Et donc, je souligne ça avec humour. C'est un segment qui marche très bien et qui me permet...
Les gens se reconnaissent sans aucun doute.
Oui. Puis des fois, c'est des choses... C'est intéressant des fois de pointer des choses où les gens se disent « Ah, ça m'énervait, mais je le savais pas. » Puis là, lui, il dit, puis je me rends compte que ça m'énerve.
Dans le fond, je devrais m'énerver.
Ouais, c'est ça. Je suis frustré après ça à tous les matins, mais je le verbalise pas. Et là, lui, il vient de le dire, puis ça fait du bien. Il y a ça, je pense, dans les spectacles d'humour, des fois, puis c'est très satisfaisant d'être sur scène, des fois, puis de, je veux pas dire dénoncer, mais de nommer certains travers qu'on a en société, c'est très agréable. Ben, vous le savez un peu.
Oui, non, mais ça, on fait dans une forme différente, mais, ouais, mais c'est vrai que de dire, hey, ça a pas d'allure, ou ça a pas de bon sens, ou, puis de, mais surtout de, je pense que c'est un talent bien unique d'être capable de traduire ça et de faire rire en même temps, là.
Ah ben c'est là tout le défi. C'est là l'ouvrage, c'est là qui est... parce que juste chialer, c'est pas drôle, mais après ça de rendre ça comique, c'est un très beau défi, puis c'est pour ça qu'on a un grand respect pour Yvon Deschamps et d'autres là, qui prennent des sujets de société qui sont pas drôles en soi puis qui rendent comique. C'est un objectif que j'ai tout le temps, puis que c'est quelque chose que je cherche à améliorer dans mon écriture constamment, ouais.
Parlez-moi de Michel Côté. Ça fait longtemps que je voulais vous poser des questions là-dessus. On a vu les films. Il avait l'air un peu de votre mentor sur le plateau.
Ouais.
Ça a été comment travailler avec lui, de dire, moi, je suis un humoriste, là, puis là, je deviens comédien, puis je travaille avec une des légendes du cinéma du Québec.
Ouais, c'était fantastique. Tout ce qui a été dit sur lui, c'est pas surfait. Il mérite tous les éloges qu'il a reçus. Quand on s'est rencontrés, il y a une quinzaine d'années à peu près, ça a très bien cliqué. Moi, j'étais très impressionné, il faut le dire. J'étais très, très, très au fait de son travail. Là. Je connaissais très bien sa carrière. J'étais très, très, très gêné de le rencontrer. Mais on a connecté par rapport à la scène en premier lieu, parce que mine de rien, on fait les mêmes salles de spectacle. Michel et moi, on faisait le même circuit de salle au moment où on se rencontrait. Lui avec Brouille, évidemment, puis moi avec mes spectacles solo. Donc on a cliqué sur l'aspect scénique là, de nos carrières. Et après ça, vers le cinéma, ça s'est fait très naturellement, parce que c'est un homme qui était fier, mais qui avait aucune prétention, qui regardait pas les gens de haut, puis qui avait cette façon-là de parler à tout le monde au même niveau. Je dis, s'il pouvait vous parler à vous, puis au troisième assistant caméra, puis c'était à peu près le même, il était à peu près les mêmes propos, puis le même niveau de langage, puis il était très très versatile, puis autant dans son travail que dans la vraie vie. C'était quelqu'un de profondément chaleureux, c'était quelqu'un qui aimait la vie puis qui aimait les gens, puis ça c'est pas surfait, c'est vraiment c'est facile de dire ça, on dit ça toujours de quelqu'un qui disparaît, mais Michel il était heureux de faire des films. Il était heureux de tourner, puis il tenait pas ça pour acquis. Il était conscient de la chance qu'il avait d'avoir trouvé Brou, puis d'avoir été engagé dans les films. C'est pas quelqu'un qui tenait ça pour acquis. C'est pas quelqu'un qui croyait qu'on lui devait ça. Il était profondément reconnaissant de travailler. Il était toujours au service de l'œuvre. Il était toujours là pour la qualité du film. Puis je l'ai jamais vu être impatient ou tanné ou après une longue journée. Puis quand je l'ai connu, il y avait la mi-cinquantaine à peu près. Puis je l'ai connu jusqu'à pendant une douzaine d'années. Là, on s'est côtoyé pas mal. Puis des longues tournées de promotion, puis tout ça. Là, c'est des films qui sortaient avec un certain fracas médiatique. Là, je veux dire, ça faisait fallait faire beaucoup de promotion. Puis Michel se jouait ce jeu-là de main de maître. Puis avec moi, il a été d'une gentillesse et d'une chaleur exemplaire. C'est vraiment quelqu'un dont je garde un très, très beau souvenir.
Il y a beaucoup d'humoristes qui disent que quand ils ont amorcé une deuxième carrière, bon, d'acteur, ils se sont sentis parfois mal reçus, mal accueillis. Disaient, mais t'es pas un acteur, t'es un... Bon, vous avez-vous senti ça ou pas?
Non, moi, j'ai jamais senti ça. Ni avec Michel, ni avec d'autres acteurs, ni avec des membres d'équipe technique. Jamais. Ou je suis peut-être un peu dans l'une, une naïf, mais j'ai pas vu qu'on me méprisait. Mais mais tout ce que je viens de dire sur Michel s'applique aussi à d'autres acteurs que j'ai rencontrés. Puis, mais Michel en particulier était très généreux avec moi. Non, moi je me suis engagé dans des films qui étaient des comédies, où à la lecture du scénario, je calculais que j'étais apte à livrer le texte puis jouer les scènes. Puis donc je suis pas trop allé loin de mon personnage là, de scène, si on veut. Peut-être un peu avec un film qui s'appelle Ça sent la coupe, mais jamais vraiment des trucs là. Je me suis pas donné comme défi de jouer de grands drames ou de pleurer sur demande, sachant que j'étais pas capable de faire ça.
Allez-vous vous ennuyer de votre gala? Parce que on peut dire votre gala parce que vous l'avez animé pendant tant d'années.
Oui, je vais m'ennuyer. Oui, parce que c'est une décision, c'est presque une non-décision d'arrêter après 18 ans, parce que c'est pas que j'étais tanné, c'est un petit peu comme un athlète là, qui arrive au bout de ses forces physiques. C'est-à-dire que moi, le mental, la capacité d'inspiration, disons, trouver du matériel frais sur le même sujet, 20 ans de suite, là, je sentais que ça devenait risqué. Donc, j'ai préféré me retirer pour préserver le souvenir que j'ai de cette association avec la disque. C'est par prudence, c'est par respect aussi du gala, puis peut-être de donner ça à une nouvelle tête qui va amener une nouvelle couleur. Je trouvais ça prudent, puis peut-être un... Je trouvais qu'il y avait quelque chose de...
Mais j'étais capable, j'allais dire, de marier le côté de la fête, là, parce que ça demeure une fête de la musique, d'être assez incisif, d'être mordant, pas méchant pour être méchant, mais juste pour nous faire sourire sur un certain... Il y avait vous avez ce talent-là de mettre ces ingrédients ensemble.
Ouais, c'est le pire puis le plus beau contrat en même temps, ça, ces animations-là de gala, parce que c'est ingrat. Je veux dire, c'est beaucoup de travail pour ce que c'est réellement. Là, c'est une soirée, les gens l'oublient rapidement. C'est pas le truc le plus payant au monde non plus. Là, on le fait vraiment par passion. Puis, mais pendant, c'est vraiment ce que vous venez de nommer là, c'est-à-dire de trouver le ton entre le plaisir, là, la bonhomie, puis le grinçage, si on veut. C'est vraiment satisfaisant quand on trouve cette mince marge-là où le ton est bon, puis on n'insulte pas les gens. Moi, j'ai toujours fait attention un petit peu d'insulter plus le groupe que les individus. Il est arrivé que je fasse une pointe ou deux, surtout à l'époque, autour de 2020-21, là, quand il y a eu toutes les dénonciations là, du côté de la musique. Là, c'était plus difficile un peu. Mais c'est un beau défi d'écriture. Comme humoriste, ça m'a solidifié beaucoup, beaucoup, beaucoup comme stand-up comique d'avoir affronté cette foule-là, le direct, les journalistes. C'est du gros travail. Mais je suis bien satisfait. Puis je retournerai peut-être un jour, mais pour l'instant, comme vous, je prends un peu le recul. D'ailleurs, je vous dis que je suis très heureux d'être là ce matin parce que mon attaché de presse m'a dit que vous faisiez des entrevues comme ça avec des gens que vous appréciez.
Ouais.
Fait que je suis très, très honoré d'être là. Mais après ça, je me disais, on dirait qu'il aurait dû faire une dernière tournée avec des gens qui tapent ses nerfs. Tu sais, les fatigants, vous auriez dû...
J'aurais dû annoncer ma retraite il y a 3 ans. La liste est longue.
Non, mais une dernière rince, Paul. Une dernière rince, là. Pires, là. De réinviter les pires. La dernière semaine, là, ceux que vous avez le mieux planté, ça, on va s'ennuyer. Vous êtes sûrement familier avec le numéro de Philippe Audrey, de la rue Saint-Jean, parle de vous comme dans vos envolées.
Mais c'est pas vrai que je me lève en tas tous les matins, ça, c'est pas vrai.
Ah, ben ça,
je le deviens en cours d'émission, mais je me lève pas toujours en tas. Merci beaucoup d'être venu, les gens. On a hâte d'aller vous voir cet automne, qui est encore au mois de juin. Louis-José Houd.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Délaissé d'un commun accord. Puis ça, aussitôt que quelqu'un te dit que c'est d'un commun accord, il s'est fait câlisser là. Fait que je me suis fait câlisser là d'un commun accord. Et ça allait pas bien. Ça marchait plus. Puis Tout le monde le savait que ça marchait pas, sauf moi. Sauf moi. Moi, le monde me disait, t'es comme, semble, ça va pas bien. Ça va pas bien, votre couple. J'étais comme, ben non, c'est ça, l'amour, c'est après 24 ans, c'est ça. L'amour, on se picosse, puis on se niaise, puis on s'insulte, c'est ça, l'amour. C'est ça, l'amour. Tu te lèves le matin, tu te réveilles, tu le regardes, t'es comme, Carlis est encore vivante. C'est ça! Ça, t'écoutes la radio aux nouvelles et disent accident mortel sur l'autoroute 20, puis tu fais Subaru blanc, Subaru blanc!
Mike White, bonjour.
Salut, Paul.
Écoute, quand Catherine a fait jouer cet extrait la semaine dernière, on était pliés en studio. Subaru blanc, là, tu sais, il y a un côté. Mais il y a des gens qui ont pris ça très premier degré en disant, mais on peut pas rire de la mort de quelqu'un. Est-ce que tu vis encore ça, ces moments-là, de gens qui sont, pas dire outrés, là, mais qui disent, mais non, on peut plus dire ça. On peut
non. Vraiment pas.
Ça, c'est terminé.
Ben, moi, je pense que c'est ça le problème de, tu sais, souvent, t'entends le monde dire, on peut plus rien dire, mais c'est pas vrai qu'on peut plus rien dire. C'est juste que c'est pas, tu sais, tout le monde a le droit à son opinion, mais c'est pas parce que toi, t'aimes pas ce genre de gag-là que moi, je devrais écouter. Si t'aimes pas ça, t'as le droit de pas aimer ça, mais peu importe ce que tu vas dire, moi, je changerai pas qui je suis, le genre d'humour que je fais. Moi, c'était tu sais, un gag de même en plus. Je ris pas de la mort de quelqu'un. Tu sais, c'était juste pour expliquer à quel point, tu sais, dans mon couple, je tu sais, c'était juste une manière drôle d'expliquer, hey, ça allait pas bien. Je réalisais pas que ça allait bien, mais ça allait pas bien, mais j'avais plein de signes. Mais tu sais, là, de commencer à faire l'autorité de la mort de quelqu'un, je fais comme, hey, je suis trop occupé pour écouter à des conneries de même.
Quand les gens vont te voir en spectacle, ils savent ce qu'ils vont avoir devant eux.
Oui.
Est-ce qu'il arrive encore qu'il y a des gens qui font le saut?
Un peu, mais c'est drôle, on dirait qu'ils sont quasiment surpris que, parce souvent, tu sais, on se dit, OK, là, c'est plus ça va, plus c'est tough faire de l'humour noir. Fait que je pense qu'ils sont surpris de voir que je continue à faire de l'humour noir. Puis même, il y a du monde souvent qui arrive, qui se disent, je pense pas je vais aimer ça. Tu sais, dans un couple, il y en a tout le temps un ou une qui trippe sur moi, puis l'autre qui est là juste parce qu'elle est gentille, là, puis elle voulait faire plaisir à son chum. Puis c'est souvent eux autres que je surprends, mais dans le bon sens. Qu'après, ils me parlent, puis ils font « Hey, je pensais pas aimer ça, puis c'était vraiment bon, finalement. »
Le titre du spectacle, c'est « Modeste ».
Oui.
Tu l'as abordé de quelle façon? Tu t'es dit « Voici ce que j'ai à dire à mon public. » Ça a été quoi l'angle, l'approche? Qu'est-ce que tu avais à raconter?
C'est vraiment niaiseux. On a trouvé le titre quasiment avant le show. Parce que moi, mon dernier show, ce spectacle-là aussi, on l'a lancé au Club Soda. T'sais, petite salle, puis j'aime ça faire une petite salle plein de soir. Puis pour Modeste, on s'était dit, on devrait faire lancer ça au Centre Bell. Puis là, on était comme, on lance ça au Centre Bell, on book, genre, on parlait de Snoop Dogg en première partie. Fait qu'on fait un show qui a aucun sens, comment qu'on met tout notre argent dedans. Et c'est Michel, mon gérant, puis il a dit, puis on appelle ça Modeste. Puis moi, ça me faisait rire. Et fait que le titre est parti de là. Daniel Fortin, que je travaille avec depuis à peu près 15 ans, qui fait toute la direction artistique, lui, il a eu l'idée de, le poster, ça va être un buste de ta face. Le décor, ça va être un buste gigantesque.
Le cul de la personnalité.
Ouais, ouais. Fait que là, je trouvais ça drôle, appeler ça Modeste, et je me disais, je vais raconter plein d'histoires qui sont tout sauf modestes, d'un show qui s'appelle Modeste. Puis il y a d'autres numéros qui sont plus modestes pour vrai, parce que, tu sais, moi je suis quelqu'un qui est assez, tu sais, je suis pas imbu de moi-même, je suis assez modeste, je suis assez humble, mais c'est un show, c'est des numéros soit vraiment humbles pour vrai ou juste show off pas possible.
Est-ce que tu t'es En fait, est-ce que tu as perdu du mordant au fil des ans ou si tu demeures le même?
Ben, j'en ai perdu pendant une couple d'années, mais là, je suis revenu. Tu sais, ça m'a pris. J'ai été. Je me compare tout le temps à Rocky 2. Tu sais, j'ai tombé, j'ai perdu, mais je suis revenu. Tu sais, puis j'ai été une couple d'années, mon genou à terre, puis là, mais là, je suis en pleine forme, puis on dirait, je suis plus intelligent dans ma façon de travailler. Quand je fais une joke, que si je me dis cette joke-là va falloir je la défendre, tout de suite je sais comment je vais la défendre. Puis si je sais pas comment je vais la défendre, là je fais OK, je la ferai pas parce que sinon je serai pas capable de la défendre.
Mais quand tu dis que tu avais le genou au sol, c'est quoi dans la foulée des poursuites? Puis...
C'est juste, moi j'ai remarqué, je suis vraiment quelqu'un de ultra sensible dans la vie et de. Je suis capable de me faire insulter ces réseaux sociaux, puis ça me fait pas si mal que ça, mais quand la moitié du monde qui m'écrivent, c'est pour m'insulter. Je sais pas c'est quoi le chiffre, mais je sais que la moitié, c'est comme mon chiffre. Fait que s'il y a la moitié du monde qui m'écrivent pour dire « Hey, t'es horrible, t'es méchant, t'sais, pis là, qui souhaite ma mort, qui souhaite la mort à ma famille », là, j'étais comme « Hey, regarde, c'est trop, là. » T'sais, moi, ma job, c'est juste d'amuser les gens. C'est pas vrai que je vais me faire insulter 24 heures sur 24.
Est-ce que vous vous êtes séparé d'un commun accord ou tu t'es fait crisser là?
Je me suis vraiment fait crisser là. mais ça s'est fait en bon terme. Ça s'est vraiment fait en bon terme. Je suis content de ça. Tu sais, quand on se parle, on a un chien en garde partagée, vu qu'on n'avait pas d'enfant. Fait que notre chien, on l'a en garde partagée. Fait qu'on se rencontre au Madrid, comme les couples qui se rencontrent au Madrid pour se donner le chien. Elle a de l'air super heureuse. Moi, je suis vraiment heureux. Je suis dans, je pense, la plus belle passe, la plus belle période de ma vie. Fait que la vie est belle, je suis content pour moi, je suis content pour elle aussi.
Mais j'allais dire, comment tu te sens après tant d'années de vie commune, plus qu'une vingtaine d'années?
Oui, ben moi j'ai voulu vraiment prendre un vrai break. Quand elle m'a laissé, des fois le monde, tu te fais laisser et tu dis, OK, je vais tout de suite commencer à sortir d'été pour te prouver à toi-même que tu es encore, tu peux attirer du monde. Mais moi j'ai fait, hey, je vais juste prendre un break, vivre cette séparation-là, vivre le deuil, parce que être avec quelqu'un 24 ans, veut pas, il y a un deuil, tu sais. Puis c'était rendu de la famille, tu sais. Ben c'était de la famille. Fait que je voulais vivre un vrai deuil avant de m'embarquer avec quelqu'un d'autre. Et j'ai été comme à peu près un an seul. Puis après, je sentais que j'étais prêt pour rencontrer quelqu'un, mais j'avais même pas le goût de rencontrer quelqu'un. Puis on dirait c'est tout le temps là que tu rencontres quelqu'un quand tu t'attends pas. J'ai rencontré une femme incroyable, puis ça a été le coup de foudre tout de suite, puis ça va tellement bien avec elle.
Catherine, qui est allée voir ton spectacle, nous a donné quelques détails sur les problèmes érectiles et la façon dont tu abordes la question. Ça a l'air que c'est quelque chose.
Ouais. Ben ça j'étais. Moi, je suis allé en thérapie pour ça. J'ai suivi des traitements puis pour régler ce problème-là. Puis c'est un problème que souvent tu lis, ça l'affecte un homme sur cinq, mais personne n'en parle jamais. Ou s'il en parle, ça va être une petite joke. Mais moi, c'est un numéro de. Ça dure comme 24 minutes, je pense. Tu sais, je vais en long et en large. Et c'est drôle, ce numéro-là, quand je l'avais écrit, c'était même pas, tu sais, souvent un humoriste écrit un numéro puis il se dit je vais l'essayer voir si ça marche. Moi c'était même pas voir si ça marchait, c'était pour voir si j'allais assumer parler de ça. Vu que je suis de la génération, tu sais, qu'un gars c'est supposé être fort, puis tu sais, puis j'ai vu que je l'assumais puis ça allait bien et le monde me parlait plus de ce numéro-là que quasiment n'importe quel autre numéro. Puis j'ai beaucoup de hey, merci d'en parler, c'est vraiment, tu te mets dans une zone, t'es vraiment vulnérable là-dedans, puis ça fait du bien entendre ça. J'ai senti que ce numéro-là c'est niaiseux là, tu sais, c'est des jokes de graines là, mais chantait que ça faisait du bien.
Moi, il y a un phénomène que je trouve absolument fascinant, c'est ton balado, le fait d'enregistrer au Centre Bell devant 20 000 personnes. Comment t'expliques le succès de ton balado puis de tout ce qui s'y greffe finalement?
J'ai aucune
idée. T'as-tu une recette à me donner?
J'ai pas. Non, mais je pense que ça va quand même bien tes affaires là. Je pense. Mais ça serait malade. Si toi, quand tu pars d'ici, tu te pars un podcast, ça je serais prêt à te donner tous mes trucs. Je vais faire ta première partie au Centre Bell. Peut-être commencer à Place Bell. Tu sais, commencer
un peu plus modestement,
ouais.
Justement.
Mais non, quand j'avais annoncé que je faisais ça au Centre Bell, je pense que c'est beaucoup, tu sais, sous écoute, c'est souvent des niaiseries. Puis quand j'avais annoncé on fait ça au Centre Bell, c'était un peu une joke. Puis la joke est devenue vraie. Puis après, c'est devenu plus grand que nature. Tu sais, moi, je pensais, souvent les humoristes, quand ils font le Centre Bell, Ils font la formule 6000 personnes, 8000. Puis nous autres, c'était ouvert au grand complet. Stage central, ça avait aucun sens. L'été passé, on l'a refait au Centre Vidéotron à Québec. Là, on avait appris des erreurs du Centre Bell. On a pas mis le stage central pour avoir un meilleur son. Mais au Centre Bell, le son, ça avait été bizarre. Puis même à ça, le monde, c'était l'euphorie. Là, le monde était heureux. Puis on dirait, le monde était là pour fêter le succès de Sous-écoute. On dirait tout le monde qui aime Sous-écoute, c'est comme si ça leur appartenait un peu. Vu que c'est pas un réseau, il n'y a pas de producteur, tu sais, ça a juste commencé de même. Tu sais, au début, c'était même pas sur YouTube, c'est sur Vimeo. YouTube laissait pas des vidéos de plus que 10 minutes. Fait que ça a grandi tellement lentement puis organiquement que tout le monde qui écoute se sent impliqué. Puis si mettons, quelqu'un parle en mal de Sous-écoute, ses réseaux sociaux, là, tout le monde se sente attaqué personnellement.
C'est à moi.
Ouais, c'est ça. Mais ça, je pense, c'est pour ça que ça explique non seulement le succès de mon podcast, mais des podcasts en général. Les gens se sentent vraiment plus attaché vu qu'il y a pas de boss, tu sais, c'est genre, c'est communautaire, c'est ce que je fais, tu sais, la radio c'est professionnel, moi ce que je fais c'est artisanal.
Modeste, t'es en tournée, tu vas te promener partout avec ça.
Oui. On va partir, là, on fait 25 soirs à Montréal, on fait 6 soirs à Québec, puis après, à partir de l'été, là, on se promène partout, aux quatre coins du Québec, puis après, on va faire une petite run. Tu sais, je fais tout le temps Nouveau-Brunswick, Ontario aussi.
Mike, merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci beaucoup à toi, puis bonne retraite.
Semi-retraite.
Oh yes, fait que le podcast va le partir pour vrai. Parfait.
Mike Ward, notre invité ce matin.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Bon, Catherine, France Beaudoin, on connaît évidemment le talent, le succès en direct de l'univers et tout ça. Elle se lance dans la fiction.
Exactement. Et elle est avec nous pour nous en parler. Salut France.
Salut.
Effectivement, nouvelle série de fiction. C'est la première fois, en fait, que ta boîte Pamplemousse Média, vous allez produire ce type d'émission parce qu'on sait que tu es une grande productrice, tu fais plein de shows. Pourquoi ça a été aussi long avant de produire ce type d'émission? Est-ce que parce que c'est plus compliqué?
Non, parce que on n'était juste pas prêts. C'était pas à tout prix. En fait, moi, je serais vraiment pas allée à tout prix. Ça prenait les bonnes personnes, ça prenait des bons projets. On s'en était parlé avec Marie-Hélène Laurent, qui est la productrice exécutive, qui est celle qui est en charge du département. On faisait du mois tout ensemble il y a 10, 12, 15 ans. Puis on s'en était parlé à ce moment-là. On s'est dit, hey, on part-tu le département de fiction? On le fait-tu? Puis on s'est dit, ah non, Pamplemousse n'avait pas les reins assez solides. Marie m'avait dit, ah, moi, j'ai des croûtes à manger. On va se pratiquer. On fait ça chacun de notre côté, puis on se retrouvera à un moment donné. Puis 10 ans plus tard, on s'est dit, OK, là, on est prête, on a grandi, on pense qu'on est capable, on avait le bon monde autour de nous autres pour pouvoir le faire surtout.
Est-ce que c'est vrai que des producteurs qui font beaucoup de fiction, dont c'est, je dirais, le gros de leurs activités, n'aiment pas ça arriver quelqu'un dans le décor qui n'est pas, disons, très, donc comme toi, c'est la première fois que tu fais une fiction? Est-ce que c'est vrai que ça bouscule un peu les grosses boîtes qui font déjà ça pas mal?
Ah, écoute, ils me l'ont pas dit. Peut-être que ça s'est rendu à vous autres, mais pas à moi.
Non, mais je dis pas que... Non, attends, je dis pas que c'est toi, mais je sais qu'il y a des producteurs qui ont déjà tenté, qui faisaient, par exemple, je sais pas moi, des quiz, des trucs comme ça, puis qui ont dit, on aimerait ça faire de la fiction. Puis dans des rencontres, ils ont fait dire, hey...
C'est encore une chasse gardée.
Ouais. Ouais, ben en fait, moi je m'improviserai pas professionnelle de ça et j'ai aucune prétention de penser que j'en ai fait dans ma vie et tout. C'est pour ça que je suis allée chercher le bon monde autour de moi. Marie-Hélène en a fait. C'était elle qui était dans un département, dans une autre boîte. C'est elle qui gérait ça dans une autre boîte avant. C'est là où je dis que je l'aurais pas fait à tout prix puis je l'aurais pas parti si j'avais pas des gens autour de moi qui le faisaient. Puis tu sais, on va chercher un réalisateur qui est Raphaël Ouellet avec la feuille de route qu'il a aussi. Vraiment, c'est sans aucune prétention, mais avec des gens solides qui sont là. C'est Pascale Renaud-Hébert. C'est une dialoguiste, c'est une scénariste également. Pour vrai, j'y serais pas allée à tout prix, mais avec les bonnes personnes, absolument.
Alors, c'est la série Veille sur moi avec Guylaine Tremblay qu'on pourra voir, évidemment, dans les prochains mois. Mais je veux te parler aussi dans le direct de l'univers parce que...
Mais attends un peu, je veux savoir c'est quoi Veille sur moi? C'est quoi l'histoire?
Moi, je regarde le temps passer, tu sais.
En fait, c'est Guylaine Tremblay qui m'a texté un soir à 11h30 en me disant « Hey, j'ai un flash, je pense que ça se peut. Si moi, je vivais ça dans la vie, je saurais pas quelle décision prendre, je saurais pas quoi faire avec ça. » C'est l'histoire d'une grand-mère, donc, qui va être jouée par Guylaine Tremblay, sa fille qui est Corinne, qui va être jouée par Pascal Renaud-Hébert, qui l'écrit, qui scénarise également. Puis Corinne, un jour, quand son enfant a un an, elle s'en va, elle sac son camp, elle part sur une dérape de consommation avec un chum qui est toxique, elle revient 3 ans plus tard, elle dit « Là, maman, je suis correct, je veux avoir la garde de mon enfant. » Et c'est là où rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Faut sortir de nos préjugés pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça, qui va être la personne la plus apte à s'occuper de la sécurité et du développement de cet enfant-là.
Avec le rôle des grands-parents aussi, voilà, qui est si
exactement
important.
Exactement, puis tout le tough love qui est là. Ouais. Quand tu prends des décisions, des fois, qui t'arrachent les entrailles, en pensant que c'est la meilleure affaire pour ton enfant, pour tes petits-enfants, mais ça l'es-tu vraiment? T'as toi-même un passé qui va être scruté là-dedans. T'étais pas peut-être toi-même avec ta consommation. Bref, ça peut être déchirant, mais c'est humainement très fort.
Alors, je reviens sur En direct de l'univers, la 15e saison de l'émission, qui a été la plus suivie de son histoire. On parle quand même d'auditoire moyen de 1,2 million de téléspectateurs le samedi soir. C'est assez extraordinaire. Mais comment vous faites pour garder encore le focus après autant d'années? Et pourquoi penses-tu que les gens sont aussi attachés à cette émission-là 15 ans plus tard?
Hey, je sais pas, on attendait tellement pas ces chiffres-là. Là, la dernière fois, ça a battu l'année de pandémie, en fait, où on était en confinement, où là, il y avait le couvre-feu. Fait qu'à la limite, tu te dis, ils sont obligés d'être devant la TV, peut-être qu'ils l'ont pas choisi tant que ça. Mais là, vraiment, il y a quelque chose de tellement le fun à sentir. Je pense qu'il y a une habitude, je pense qu'il y a une diversité d'invités aussi. On va dans du très, très jeune jusqu'à du plus vieux. Donc, je pense que le public est très large. Je pense que l'équipe réussit à se renouveler. Puis je pense que peut-être que les résultats amènent les résultats au sens où on a plusieurs invités spéciaux qui marquent le coup pendant l'année aussi. Je pense à Lou Cala qu'on a vu dans la dernière émission de Ève Côté, qui est une fille qui arrive de Los Angeles avec le hit radio actuel, qui se retrouve première d'un ventre tout de suite en sortant au-dessus de Beyoncé. Elle croyait tellement pas à ça. Donc, ce genre d'affaires-là qui fait que ça fait jaser aussi, que ça tient l'équipe réveillée. Merci au public. On se trouve bien, bien, bien chanceux.
16e saison qui a été annoncée. Comment vous faites pour recruter autant d'invités? Parce que le bottin des artistes est assez grand, mais il y a quand même des limites aussi. Il y a des gens qui reviennent.
Ben, il y a des gens qui reviennent, mais très peu. Je te dirais que quand on fait des retours pour un deuxième univers, comme là, genre, Paul serait pas dû encore. C'est
non,
trop frais.
Non, je suis d'accord avec toi.
Non, il rêve d'être. Oui, il va être kidnappé. Il rêve de ça, France.
Ça, j'adorerais. Mais en fait, c'est ceux qui sont passés les premières années, donc il y a 15 ans. Ils ont toute une vie de passé. Puis on en fait peut-être 3 ou 4 par année maximum quand on refait des deuxièmes univers. Mais c'est tellement surprenant de voir la liste qui est là, de voir ceux qui popent à travers ça aussi. Des Éléonore Lagacé qu'on a fait cette année, Mona de Grenoble, Ève Côté, il y a 6-7 ans, on les aurait pas fait, bien évidemment. Donc, la liste se nourrit et la liste d'attente est vraiment, vraiment là. Hier, j'ai eu un appel, je peux pas vous dire qui, mais si ça se concrétise, vous croirez pas ça.
Ah, ben là, écoute, tu peux pas nous laisser de même. Là.
Ben oui, un peu.
t'as dit que le temps filait, fait que je te respecte là-dedans.
France Beaudoin, merci d'avoir été là. Je rappelle, En direct de l'univers, 16e saison annoncée pour l'automne prochain. Puis on va suivre, évidemment, avec beaucoup d'intérêt, tous tes projets dans la nouvelle série Veille sur moi.
Je vous embrasse. Merci.
Merci.
Salut, au revoir. Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify. Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Premier sujet, ben je reviens sur ce vol assez spectaculaire dans une bijouterie au centre Fairview Pointe-Claire. Ça s'est passé la semaine dernière. 10 personnes ont été arrêtées. Et le sergent détective Anthony Cantelmi est avec nous. Il est enquêteur au groupe Projet à la division des enquêtes criminelles du SPVM. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, monsieur.
Racontez-nous ce scénario de film un peu. D'abord, vous avez eu quoi? Eu vent qu'il y avait des voleurs qui se préparaient à frapper dans cette bijouterie.
Ben exactement. Donc, notre unité, on travaille en amont. On essaie d'identifier des suspects possibles qui seraient sur notre territoire. Puis, on avait ciblé une cellule de gens sud-américains qu'on croyait être sur le point de commettre un crime. Donc, on s'est mis à les surveiller. Et puis, on a vu certaines choses qui nous ont indiqué que un passage à l'acte était imminent.
OK. Quand vous me dites « j'ai détecté une cellule oui. », là, on parle quoi? D'une organisation qui fait du tourisme criminel, qui se déplace un peu partout?
Donc, c'est un peu le phénomène des groupes de voleurs sud-américains, communément appelés les South American Theft Groups, SATG. Et effectivement, c'est des touristes criminels. C'est des gens qui arrivent de pays sud-américains, normalement le Chili et la Colombie. Ils arrivent au Canada avec souvent des fausses identités ou des vraies identités obtenues frauduleusement. Ils vont venir au Canada et avec le but de commettre des infractions criminelles non violentes souvent, des introductions par effraction résidentielle commerciale, des vols par diversion. Également, ils peuvent faire du vol à l'étalage.
Est-ce que vous savez pourquoi ils ont ciblé cette bijouterie? Quelqu'un qui arrive là du Chili, pourquoi il s'en va à Pointe-Claire au centre commercial puis qui pense que c'est là qu'il faut frapper?
Ça, c'est pas clair encore. Okay. On essaie de le comprendre. Évidemment, une bijouterie, c'est une cible
en soi, oui.
En soi, exactement.
Et il y a eu de la filature.
Il y a eu de la filature, entre autres, oui. Le but était de confirmer nos soupçons sur ce groupe-là. Et effectivement, lors de 3 journées de surveillance, on a vu effectivement plusieurs choses qui nous indiquaient, OK, ça s'en vient, il va y avoir un passage à l'acte bientôt. C'est pour ça qu'on était...
Qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vos policiers ont vu qui venait confirmer là les soupçons?
Donc, je vous disais, entre autres, on a vu du repérage. Donc, on a passé plusieurs longues minutes et heures proches de la bijouterie ciblée. Et par la suite, on a vu des indications aussi d'achat d'équipements spécialisés qui pourraient servir à faire ce genre de vol.
OK, mais ce sont des vrais professionnels, là.
Oui, vraiment, on n'a pas affaire à un petit groupe désorganisé. Ça, c'est de la criminalité organisée. Vraiment organisée, c'est des gens qui se préparent. Et c'est pour ça que c'est difficile de travailler ce genre de groupe.
Est-ce que vous savez, là, parce que vous les avez arrêtés, puis bon, ils sont détenus et tout ça, où ils ont frappé avant de venir à Montréal?
Ça, c'est sous enquête présentement, mais j'ai déjà des sons de cloche qu'ils ont fait d'autres crimes ailleurs au Québec et au Canada, mais tout ça est sous enquête encore.
OK, donc ils étaient sur le territoire depuis un certain temps, je comprends bien.
On est en train de le confirmer. Honnêtement, tout ça est arrivé très récemment. Et là, on travaille avec nos partenaires policiers au Québec, au Canada, et avec les services frontaliers pour confirmer les identités, les entrées au pays. Combien de temps ils sont ici pour ensuite cibler les crimes qu'ils auraient pu commettre?
OK, là, on fait un scénario de film. Là.
Oui.
OK, vous les suivez. Vous entendez dire qu'ils sont en train de préparer. D'abord, est-ce que dès le départ, c'était cette bijouterie qui était ciblée ou s'il y en avait d'autres là où ils allaient faire comme ça du repérage?
Donc, celle où ils ont finalement frappé, on n'avait pas prévu qu'ils allaient là.
C'est vrai.
Ils avaient ciblé une autre place, selon nous. Ce qu'on a vu sur la surveillance, c'était qu'ils avaient ciblé une autre place. Alors, le soir de l'événement, même si eux, dans leur tête, c'était très planifié, l'événement, mais pour nous, on l'a vécu en temps réel. Donc, il a fallu s'ajuster.
Vous avez été quoi, surpris de les voir s'en aller à Pointe-Claire?
Totalement. Totalement, oui. Alors, des fois, on essaie d'avoir de l'information d'avance pour alimenter nos plans, mais là, celle-là, on l'a eu en temps réel, puis on a dû s'ajuster rapidement.
OK, puis quand vous les avez vus partir pour le centre commercial de Pointe-Claire, là,
oui.
Il était quelle heure à peu près? C'est en soirée, ça?
En soirée, vers la fermeture du centre commercial.
OK, puis là, ils ont réussi à commettre le vol. Vous les attendiez patiemment à l'extérieur?
En fait, on s'est déplacé sur les lieux avec le but de voir tout ce qu'on pouvait. Et puis à un certain moment, beaucoup plus tard dans la soirée, alors qu'on n'était pas certain qui était où, on voyait des véhicules bouger. Honnêtement, on voyait un mouvement concerté de différents véhicules. Il y en a certains qui faisaient le guet à l'extérieur dans 2 véhicules. Donc on voyait quelque chose se passait. Et à un certain moment, la voiture principale, si on veut, s'est approchée d'une porte de service. Et là, on a vu plusieurs individus sortir du centre d'achat, embarquer rapidement dans la voiture, et là, les 3 voitures quittent, et ils s'en vont sur l'autoroute. Alors maintenant, ça, c'était le temps de voir est-ce qu'il y a eu commission d'une infraction criminelle. Donc, on est parti rapidement à la recherche, et c'est là qu'on a trouvé le commerce adjacent à la bijouterie, avec un trou dans le mur qui les séparait.
Et ils ont réussi à voler pour 3 millions de valeurs.
Ça, c'est une estimation. Évidemment, les évaluations réelles sont encore en cours, mais on parle de l'inventaire quasi total de la bijouterie.
Puis ça leur a pris combien de temps, vous pensez, faire ça?
C'est encore sous enquête. Là, on travaille à comprendre combien de temps réellement ils étaient à l'intérieur du centre d'achat. Mais définitivement, ils ont pris leur temps. C'était un travail minutieux, bien planifié. Il n'y avait rien laissé au hasard.
Puis ils étaient bien équipés là, pour être capables de faire ça aussi.
Totalement, tout à fait.
Est-ce qu'il y a d'autres groupes criminels de cette nature qui sont sur le territoire?
Alors, quand on parle de SATG, on parle pas d'une organisation criminelle comme un gang de rue ou les...
la mafia, là.
La mafia. On parle plus d'un modus operandi, une façon de faire.
Okay.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres groupes SATG? Toujours. Depuis les dernières années, il y a un enquêteur d'expérience sur notre équipe qui prendra sa retraite sous peu, mais lui, il y a plusieurs années, il a commencé à travailler ce phénomène. Et depuis qu'il a commencé, on doit être autour de 40 ou 50 arrestations en flagrant délit pour des crimes similaires à ça, soit des intros. Souvent, c'est des intros par effraction dans les résidences, mais ça peut être des commerces.
Mais vous savez, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on a l'impression que des vols comme ça de bijouterie, de banque, c'est rare, c'est dépassé, parce que les gens, on voyait le bilan hier sur 15% d'augmentation d'arnaques, des faux représentants, des trucs par ordinateur, par téléphone, puis que les banques, ça remonte, ou les bijouteries, c'est à une autre époque. Visiblement pas.
Comme on disait tantôt, une cible. C'est une cible facile pour la quantité de choses précieuses. Ouais. Ouais.
Merci beaucoup, puis bravo à votre équipe.
Merci.
C'est le sergent-détective Anthony Cantelmi qui est du SPVM. Donc, ces gens-là ont été arrêtés. 8 hommes et 2 femmes également.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Parlons du prix de l'essence maintenant. Une hausse spectaculaire dans les dernières heures. Pas partout, c'est l'habitude. Ça varie un peu d'un endroit à l'autre. Mais essentiellement, par exemple, à Montréal, le prix de l'essence à la pompe a touché 1,91$, 1,92$ le litre. On nous dit que c'est probablement la hausse la plus importante, ou en tout cas le niveau le plus important depuis les 2 dernières années. Le professeur Pierre-Olivier Pinault est avec nous de la chaire de gestion du secteur de l'énergie HEC Montréal. Monsieur Pinault, bonjour.
Bonjour, monsieur Arcand.
Alors, pourquoi cette augmentation quand même, là, quoi, de 20 sous le litre tout d'un coup?
Deux grandes raisons. La première, c'est qu'on passe à un changement de type d'essence. Les mélanges que les raffineurs font pour l'été sont différents. Et donc, ils mettent des produits qui sont un peu plus chers. Il y a moins de butane l'été que l'hiver, parce qu'on veut qu'il y ait moins de volatilité, moins d'évaporation. Avec la chaleur de l'été, l'essence peut s'évaporer et on veut pas qu'elle s'évapore, alors ils mettent des produits plus lourds qui s'évaporent moins de butane, et ça coûte plus cher ce qu'ils mettent pour remplacer le butane. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que depuis 2 semaines, là, le prix du brut a augmenté d'une dizaine de dollars sur les marchés internationaux, puis ça fait un 6 cents de plus l'essence. Alors, les deux combinés, et puis évidemment, le jeu de tarification de l'essence fait en sorte qu'il monte en flèche, ça devrait redescendre. C'est ce qu'on observe d'habitude sur les marchés de l'essence. Ça monte rapidement, puis ça descend après tranquillement un petit peu.
Mais quand vous dites ça redescend, est-ce que ça peut revenir au niveau d'avant cette augmentation ou on va redescendre, mais pas tant que ça?
Alors, on ne sait pas, ça dépend comment le prix du brut à l'international va varier. Et ça, c'est la géopolitique, c'est l'offre et la demande. Ça peut redescendre, mais comme on voit les tensions au Moyen-Orient, l'Iran qui ça semble pas se dégrader et la situation ne semble pas s'envenimer beaucoup plus au Moyen-Orient, mais il y a des tensions là-bas. Ça peut affecter les marchés du pétrole, mais si tout reste calme et si surtout la demande de l'été ne monte pas trop, et puis ça se peut que l'été, traditionnellement, les gens prennent la route pour les vacances, puis là on commence un petit peu à rentrer dans la saison d'été. Donc ça dépend de l'offre et de la demande. Mais si la demande reste plutôt calme, parce que la situation économique est pas non plus très favorable, et si les tensions sont au Moyen-Orient sont pas trop fortes, on pourrait voir le prix descendre, mais il faut pas s'attendre non plus à des descentes trop importantes.
Merci beaucoup, c'est très apprécié. Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Au revoir. Pierre-Olivier Pinault, donc, est le titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal. Et l'électrochoc, on l'a reçu ce matin, là, les gens qui entraient à la station disaient, as-tu vu, 1,91$.
Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à l'essentiel de Paul Arcand sur Apple Balado, Spotify ou Google.
Un nouvel épisode tous les jours en semaine, vers midi. Après la pause, ça tient la route avec Benoît Charrette.
C'est 23.